Le burn-out militant, moi, ça me fait penser à certaines personnes qui essayent de défendre des causes un peu à corps perdu. Ces gens-là, ils défendent des causes qui sont belles, qui sont justes, mais ils se mettent à fond dedans et ils font un burn-out à cause de ça, quoi.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque sans oublier d'en rire, avec une innovation de taille cet après-midi. Une de ces idées qui frappe sans prévenir dans la bouillonnante cervelle de Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, souvent quand il est en phase de digestion d'ailleurs. Cette idée qu'il nous a présentée hier en conférence de rédaction comme, je cite, de génie, la voici. Pour la première fois de l'histoire de Zoom Zoom, 2 émissions successives vont se répondre avec 2 thèmes qui se font écho. Aujourd'hui, la question du burn-out militant, quand à force de s'engager, on craque. Et demain, la question de la résilience militante, ou pourquoi il faut continuer à militer même quand c'est dur et qu'on a l'impression de prêcher dans le désert.
Vous êtes un génie, vous m'entendez? Il n'y a qu'un génie 100% pour avoir des idées pareilles.
C'est immédiatement exclamé Quentin, qui sait à quel point Cyril est sensible à la flagornerie, même la plus grossière. Et nous voilà donc réunis pour la première partie de notre spécial militantisme. Zoom aujourd'hui sur le phénomène encore peu documenté, mais bien réel, du burn-out militant. Un sujet qui me parle, évidemment. Moi qui suis parfois là, de donner tant de temps et d'énergie dans les mouvements sociaux au sein de Radio France. Lors de la dernière mobilisation contre le projet de holding de l'audiovisuel public, c'est quasiment moi tout seul, il faut le dire, avec quelques copains de la CGT qui organisaient la grève. Parce que oui, à l'antenne, vous entendez de la musique, mais derrière, qui se tape de rédiger les comptes rendus de séance? Qui prépare les sandwichs? Qui monte la caisse de grève pour venir en aide aux salariés d'Inter qui n'ont pas la chance d'être payés comme Manon et Quentin? Mais lui-même de sa poche, alors qu'il est payé au lance-pierre. Au lance-pierre, je le dis, pour aider les copains. Eh bien, c'est Bibi. Et parfois, Bibi, il en a marre de tout donner au service du collectif. Parfois, Bibi, il aimerait sécher les réus de la CGT, laisser les autres se débrouiller et partir à l'île Maurice pour se changer les idées. Seulement, voilà, non. C'est trop ancré en moi. Militant un jour, militant toujours.
Vous ne croyez même pas en
c'est disant. C'est à tous mes frères de lutte qui parfois doutent que je dédie ce numéro de Zoom Zoom Zen. Comme disait le Che, et Manon aussi, après quelques choupitos, hasta la victoria, siempre.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Comment vous disiez déjà les maisons de l'île Maurice? Ah oui, les jolies maisons coloniales.
Oui.
Vous avez dormi.
C'est une architecture coloniale. Oui, c'est ça, une architecture qui existe. Oui.
Et vous organisez des grèves maintenant? Vous organisez quelque chose maintenant?
Il ne sait pas ce que c'est, je crois.
il est tout
vous
perdu.
Vous savez que le zoom zoom test arrive et que vous pouvez très bien démarrer zoom zoom test avec de nombreux points de pénalité. Ça sera ma décision. Bonjour Hélène Balazar.
Bonjour.
Bienvenue, merci d'être sur Inter avec nous cet après-midi. Vous êtes chercheuse en sciences politiques à l'École nationale des travaux publics de l'État. J'ai lu que vous alliez recherche et engagement autour de la démocratie participative et du community organizing. Déjà, c'est quoi le community organizing?
Eh ben, c'est des méthodes de mobilisation citoyenne qui partent des sujets, des préoccupations, des personnes, des habitants, surtout dans des quartiers populaires, des communities.
Communities,
ça a le sens de quartier, en fait, en anglais. C'est pour ça qu'on traduit souvent pas ce terme en français.
Mais il reste comme ça en anglais. Mais si on vous a invité aujourd'hui, c'est pour votre livre « Burnout militant, comment s'engager sans se cramer » que vous avez coécrit avec Simon Cotin-Marx et qui est sorti chez Payot. Vous allez nous expliquer ce que signifie ce burnout dont on parle finalement assez peu, mais qui gagne pas mal de personnes qui s'engagent dans des assos. Juste le temps de vous présenter ceux qui sont, je vous rassure, totalement immunisés contre ce phénomène du burn-out militant. Oui. Déjà, en commençant leur journée à 10h pour l'une, à 14h pour l'autre, ils sont techniquement à l'abri du burn-out tout court. Et alors, militant, alors là, si vous voulez, il n'y a aucun risque. La seule fois que Quentin s'est battu pour une cause, c'était pour que le responsable du stand grillade de la cantine accepte de mettre non pas 2, mais 3 merguez dans son assiette.
J'ai gagné.
On n'est donc pas...
On est donc pas... c'est pour tout le monde,
oui,
maintenant.
Oui, c'est pour tout le monde, c'est collectif. On n'est pas sur un profil à la Greta Thunberg. Quant à Manon, elle avait bien failli à une époque s'engager pour la cause féministe, se présenter en porte-étendard de la sororité. Et là, ça avait été rattrapé par des propos tenus hors antenne dans notre émission.
Un vrai laidron.
Propos d'autant plus choquant qu'elle parlait évidemment d'une invitée.
Plus,
Manon Mariani, non, quant à lui, bonjour.
Pas. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Je parlais d'un chat, je pense.
Oui, ça doit être ça. Oui, ça doit être, voilà. En plus,
bonjour.
Mais quelle indignité.
Bonjour,
hein. Manon, allez, dans votre bonjour. Pièce jointe aujourd'hui.
Une figure du militantisme écologique qui a parlé à plusieurs reprises de ses burn-out et de la pression qui pèse sur la jeunesse d'aujourd'hui en termes d'engagement et de combat.
Et vous, avez-vous déjà entendu parler du burn-out militant? Quentin est allé vous poser la question dans la rue où vous deviez être nombreux hier matin, sachant qu'il faisait moins 4 et qu'il y avait 10 cm de verglas sur les trottoirs.
Je vais pas vous mentir, c'est pas ma meilleure semaine. D'ailleurs, j'ai demandé à la direction des ressources humaines s'il y avait une prime de pénibilité. Eh bien non, autant être fixé, je vous expliquerai. Alors, est-ce qu'on est en burn-out à force de trop s'engager ? J'ai eu 3 générations au micro d'Inter dans la rue, et c'est dans la prochaine demi-heure.
Jusqu'où le militant est-il prêt à aller au nom de l'altruisme ? Vers 16h30, nous partirons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui, à l'instar de Cyril Lacarrière, qui en mars dernier s'était cloué les testicules sur le parvis du ministère de la Justice pour protester contre la condamnation de François Fillon, sont allés loin, très loin, par passion du militantisme. Pauvre Cyril.
Qui a fait ça ? C'est lui qui avait révélé la vidéo de Benjamin Griveaux sur la place rouge, il a fait ça. Oui. Comment s'appelait-il déjà ? Son nom m'échappe.
Pas Dimitri, mais un nom russophone, effectivement. Ouais. Juste avant 17h, nous serons rejoints par Lisa Perriot. Après 17h, restez avec nous, ceux qui le détestent et avaient même songé à quitter la France en 81 pour fuir l'arrivée des chars russes, l'appellent Mitran. 30 ans après sa mort, François Mitterrand a-t-il encore des secrets ? C'est ce qu'on va voir avec le journaliste qu'il a bien connu, Georges-Marc Benamou, qui sera notre invité à partir de 17h. Mais d'abord, Hélène Balazar, zoom sur ce phénomène du burn-out militant. Vous dites que les milieux militants connaissent leur lot de personnes et de collectifs qui s'arrêtent, épuisés. Le burn-out n'est pas réservé au monde du travail. Le burn-out militant, c'est quand même un sujet encore largement sous-estimé, peut-être ?
Oui, on pense que c'est tout à fait sous-estimé. Malheureusement, il n'y a pas de grande enquête, il n'y a pas d'étude sur le burn-out militant en France. Mais, par exemple, aux États-Unis, où on parle de ce phénomène depuis une trentaine d'années, des chercheurs estiment à peu près 50% le nombre de bénévoles concernés à un moment par l'épuisement et 10% par vraiment aller jusqu'au burn-out où on ne peut plus rien faire et on explose. Quoi.
Il y a en sous-titre du livre, il y a pour continuer à changer le monde sans s'épuiser. Ça paraît être compliqué quand même comme projet parce que le monde va tellement mal. Bon, c'est un peu une platitude de dire ça, mais enfin, il y a des forces tellement contraires. On parle beaucoup de backlash dans notre émission. Quand on est dans des assauts, en ce moment, on doit batailler plus que jamais. Quoi.
Oui, et c'est ça le paradoxe du burn-out militant, c'est qu'à la fois, ce qui nous motive à nous engager, c'est le fait qu'on a envie de changer le monde, et à la fois, le fait que c'est compliqué de changer le monde, et que notamment, en ce moment, enfin, les puissances publiques ne nous aident pas vraiment à aller dans ce sens-là, ça va être un facteur, c'est dans les risques psychosociaux qui mènent au burn-out. Donc à la fois, ça nous motive, et à la fois, le fait qu'il y a besoin de changer le monde, c'est aussi ça qui nous épuise.
Il est une anthologie du militantisme à lui tout seul. Il s'est battu pour l'interdiction de la coriandre dans les restaurants, l'abolition de la frangipane dans la galette des rois. Il a demandé à ce qu'on organise un référendum citoyen pour savoir si oui ou non il fallait euthanasier de force les gens qui disent « ça fait sens ». C'est lui enfin,
ça, oui.
C'est lui enfin qui a obtenu, je cite, « que ces tarés de véganes ne puissent pas appeler un machin spongieux au soja un steak ». Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël. Piotr Pavlovski.
Ah, ça vous est revenu ou on vous l'a soufflé ?
Piotr, c'est notre invité qui m'a donné le prénom et
Cyril.
Enfin, c'est donc clouer les testicules.
Oui, il l'a vraiment fait. Il l'a vraiment fait.
C'était militant ou artistique ?
Ah oui, c'était militant, oui, bien sûr. C'était pour s'opposer, je crois, au tour
des artistes. Artistique aussi, je crois.
C'est un artiste. C'est un artiste comme un artiste.
Il s'est fait opérer après, on sait ?
Imaginez, il a fallu enlever le clou.
Mais non, il y a 2 minutes, nous n'avions même pas son nom.
Oui, c'est vrai.
Pas les détails sur la suite.
Je demanderai à ChatGPT.
Cyril, racontez-nous le burn-out militant, d'où ça sort ?
Imaginez le monde d'aujourd'hui. Les urgences s'accumulent, urgences climatiques, urgences sociales. Urgence démocratique, urgence démographique. Pour y faire face, des milliers, même des millions de personnes s'engagent. Elles créent des associations, elles organisent des manifestations, elles militent jour et nuit, souvent bénévolement. Leur salaire, c'est la cause et l'espoir de changer le monde. Un don de soi qui peut aller jusqu'au burn-out, le burn-out militant. L'histoire d'une surcharge émotionnelle que l'on n'a pas vu venir. Petit rappel, c'est au psychologue américain Herbert Freudenberger que l'on doit d'avoir popularisé ce thème dans les années 70. Il le décrivait alors chez des soignants et des travailleurs sociaux épuisés par leur métier. Le burn-out, c'est l'épuisement professionnel total, physique, émotionnel et mental, le résultat d'un effondrement causé par une pression trop forte et un manque de reconnaissance.
Et alors, comment ça s'est appliqué au militantisme ?
Eh bien, parce que l'idéal n'est pas à l'abri de cet effondrement. Au contraire, la faute au syndrome du sauveur qui agit comme une usine à culpabilité chez les militants. Parce que s'engager pour une cause, ça n'incite pas à la modération. Alors, tout ça sort le burn-out militant et bien d'un engagement qui finit par nous bouffer et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci. Merci Cyril. C'est vrai que ce concept du burn-out militant, il n'est pas du tout étonnant quand on réfléchit 5 minutes, parce qu'effectivement, il y a ce syndrome du sauveur qui pousse les militants à s'engager sans vraiment se rendre compte qu'ils s'épuisent. Autant notre job, bon, on sait qu'on travaille pour notre patron éventuellement, donc on peut faire gaffe un peu à ce qui nous arrive. Mais là, quand on met tout son cœur dans une cause, on oublie qu'on s'épuise.
Alors, ce n'est pas la seule raison. Il y a 2 autres raisons, mais je vais revenir dessus. Ouais. Les 2 autres raisons qui vraiment sont caractéristiques du burn-out militant, c'est aussi l'impossible prise en charge du bien-être par les collectifs, parce que la cause cause prime. On ne va pas s'occuper du bien-être des militants ou des bénévoles. Oui. Et aussi, c'est l'inaction politique et même la répression politique des militants, des bénévoles, qui peut être violente, comme on l'a vu par exemple pendant le mouvement des Gilets jaunes.
Vous dites dans votre livre qu'il faut sortir de la logique du sacrifice personnel et de la figure du chevalier blanc solitaire. Mais comment on fait quand la volonté de changer le monde est précisément la base de son propre engagement ?
Alors, c'est la base et c'est la motivation individuelle pour rejoindre un collectif. Mais en fait, il n'y a aucun individu seul qui a réussi à gagner une mobilisation, gagner une lutte sociale, gagner des progrès sociaux. Les congés payés, la fin de l'apartheid, la fin de la ségrégation, le droit à l'avortement, le droit au logement opposable. Enfin, toutes ces avancées sociales ont été gagnées par des mobilisations collectives. Et même si l'histoire retient des fois un héros, une héroïne, en fait c'est plutôt le produit de notre culture qui aime bien raconter des récits et résumé. Aussi notre système qui est très individualiste, qui est très sur le culte de la performance, sur la compétition, et qui est d'ailleurs aussi contre ça que beaucoup d'engagements naissent pour lutter contre cette société
très individualiste.
Mais justement,
vous parlez de héros et d'héroïnes, est-ce que c'est pas aussi cette surreprésentation de ces fameux héros et héroïnes du militantisme qui peut exacerber ce burn-out militant ?
Alors oui, parce qu'il y a quand même du coup beaucoup de personnes qui pensent que à cause de cette surreprésentation, ils vont... il faut qu'ils se sacrifient personnellement. Et donc, ça a deux causes de burn-out, parce que soit on s'épuise, l'intensité de travail, c'est le premier facteur de burn-out, trop d'intensité de travail, mais aussi on épuise les autres, plus parce qu'on les fait culpabiliser. Et donc, nous, quand on s'engage sans se voir comme pouvant être un héros et totalement se dédier à la cause, on va culpabiliser, on va dire qu'on n'en fait pas assez. Et du coup, pour ces deux raisons, c'est vraiment la fausse route et la mauvaise route à prendre. Et dans le livre, on parle notamment de l'exemple qui est souvent pris dans les formations au community organizing, l'exemple de Rosa Parks, qu'on retient assez récemment. Et d'ailleurs, grâce au mouvement, à pas mal de luttes féministes, maintenant on parle d'héroïne aussi et pas que de héros masculins. Mais ça va quand même aussi, c'est pas forcément dans le bon sens de juste retenir une figure. Et là, dans le livre, on revient sur l'histoire du boycott des bus de Montgomery, où on a retenu que Rosa Parks, parce qu'à un moment, elle a décidé de ne pas laisser sa place à une personne blanche, alors que la loi, à l'époque, disait qu'il fallait laisser ses places aux personnes blanches. On retient que c'était un acte héroïque et que grâce à elle, il y avait énormément d'organisations derrière, et il a été même question que ça soit une autre femme avant.
Femme qui était fille mère et donc qui a été écartée au profit de Rosa Parks.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Donner, c'est la seule façon d'aimer, disait France Gall. C'est aussi ma philosophie, mais hélas, parfois, à force de donner, on finit cramé. Zoom cet après-midi sur le phénomène du burn-out militant avec vous, Hélène Balazar, chercheuse en sciences politiques et co-autrice de Burn-out militant, comment s'engager sans se cramer, qui est paru aux éditions Payot. Vous dites quelque chose d'intéressant. Il est difficile de séparer le militantisme de sa vie privée. C'est vrai que notre job, on peut bien le dissocier de notre vie privée. Le militantisme, ça fait partie de nous, intrinsèquement. Donc, c'est difficile de voir la frontière.
Oui, alors déjà, le job, on est pas mal à connaître le fait que c'est quand même aussi difficile, mais elle due encore plus l'engagement bénévole, quel qu'il soit. Et on le fait souvent sur nos heures perso, le soir, le week-end. Et en fait, aussi, des fois, on s'engage. Une bonne raison de s'engager, c'est pour rencontrer des gens. Donc, on se fait des amis aussi via les associations dans lesquelles on s'engage. Et donc, on lie amitié et engagement. Et donc, on a du mal à... En fait, c'est un des facteurs, un des risques un peu d'épuisement, c'est qu'on a du mal à vraiment, à un moment, se poser, se reposer. Et en fait, le droit à la déconnexion, il devrait aussi exister
pour les bénévoles.
Mais vous dites justement qu'il y a des organisations qui imposent des pauses ou des années sabbatiques pour permettre la décantation et éviter les burn-out. C'est notamment le cas de la Croix-Rouge. C'est le sujet même de son engagement, le contact avec des situations tellement difficiles qui peut provoquer un burn-out si on ne se met pas un temps en retrait. en fait.
Exactement. Alors ça avait été montré aussi dans le cas du burn-out professionnel, justement des travailleurs sociaux, des personnes qui sont en contact avec des personnes en grande précarité, en grande difficulté, victimes de violences. Il y a le traumatisme, ce qu'on appelle le traumatisme vicariant. On se met à la place des autres et on peut avoir les mêmes symptômes que si on avait vécu soi-même les traumas. Et du coup, voilà, c'est donc pour les bénévoles qui s'engagent, c'est la même dans ce type d'association, c'est le même problème, quoi.
Pardon, est-ce qu'on sait s'il y a plus de cas de burn-out militant, justement, je sais pas, pour quelqu'un qui s'engage auprès des migrants à Calais, que sur une activité, une action peut-être moins choquante? Est-ce que c'est plus dans les situations difficiles que les gens ont des burn-out, ou
pas forcément, parce qu'en fait, dans les facteurs du burn-out, il y a aussi justement le fonctionnement interne du collectif. Et ça, c'est aussi un gros facteur de burn-out, c'est quand les collectifs dysfonctionnent à l'image un peu de la société. On n'est pas à l'abri de rapports de domination en interne, de mauvaises organisations. Souvent,
oui, c'est
d'ailleurs
pas le monde des bisounours non plus, les assos.
Voilà, c'est pas le monde des bisounours, et ça, c'est aussi un gros facteur de burn-out.
Comment ça marche le droit à la déconnexion que vous appelez de vos voeux, hein, quand on est engagé sur des sujets qui méritent d'être dérangés à toute heure du jour, de la nuit, en semaine, en week-end? On pense aux gens qui, même dans les maraudes, où cette semaine il y a eu de la neige, il y a eu un plan grand froid. Comment ça se passe?
Eh ben alors, ça demande un peu d'anticipation, hein, un peu tout ce qu'on dit là dans le livre, c'est que souvent on s'engage, on se précipite et on a envie d'être là surtout pour la cause avant tout. Et en fait, pour se donner des règles d'organisation collective qui préservent le collectif et qui préserve les individus, il faut prendre un peu le temps de se poser et donc organiser des rotations notamment, vérifier qu'une personne presque la protéger d'elle-même si on voit qu'elle a enchaîné trop de maraudes, ou qu'elle est, elle est derrière le téléphone à recevoir des appels de femmes victimes de violences par exemple, 5 soirs d'affilée, à un moment, il faut imposer des pauses. Et donc c'est vraiment avoir conscience de ce risque-là pour l'anticiper avant que ça ne soit trop tard, et donc se fixer des règles. Il n'y a pas le droit du travail, c'est ça qui est problématique. Il n'y a pas le droit du travail pour protéger, mais c'est en fait un peu s'en inspirer.
Et est-ce que, je comprends qu'on arrive dans une asso, on est parfois très jeune, on est un peu un chien fou, on a envie de sauver le monde et de faire le maximum, on ne compte pas ses heures. Est-ce qu'aujourd'hui, que ce terme burn-out militant apparaît comme ça dans le débat public, est-ce qu'il y a dans les assos des anciens qui briefent, qui forment un peu les jeunes arrivants pour leur dire attention, pour que ça fonctionne bien, que tu puisses vraiment aider les gens, il faut que tu te préserves toi-même aussi un minimum. Est-ce que ça existe ou ce n'est pas du tout formalisé?
Eh bien oui, c'est un peu ce qu'on essaye de montrer dans le livre. En fait, on a recueilli plein de témoignages de bonnes pratiques d'associations, de collectifs qui essayent de se saisir de cette question-là et de prévenir les burn-out. Et du coup, il y a maintenant des bases soins qui sont créées. C'est pas forcément les anciens d'ailleurs, c'est aussi des fois pas les nouveaux, mais plutôt des jeunes militants. Enfin, il y a de tout, hein. C'est pas forcément un apprentissage des anciens militants qui parfois comprennent pas que les jeunes ont envie de se préserver, justement. Enfin, c'est aussi une culture de prendre soin de soi. On comprend mieux que maintenant, pour prendre soin des autres, il faut aussi prendre soin de soi. Et puis des par exemple, des mouvements qui ont des modes d'engagement très physiques, comme Extinction Rébellion, ou aussi les soulèvements de la Terre, qui ont été beaucoup réprimés physiquement, pour le coup. Eux, ils ont mis en place, ils ont été obligés, penser ça, et de mettre en place des bases soins avec des psychologues, des médecins, et même d'anticiper, en fait, des traumas potentiellement liés, là, aux violences policières, notamment, quoi.
C'est une devise du célèbre militant Florent Pagny, qu'il ressasse pas mal depuis que le fisc est sur son dos.
Savoir donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre.
C'est trop de Florent Pagny, en vrai.
Je suis ma fan.
Vous connaissez bien son répertoire, en tout cas, on le découvrira dans une prochaine émission.
Une grande partie du répertoire français.
Tout ça est assez inquiétant. Savoir donner sans reprendre. Des mots qui pourraient vous inspirer, mais non, Quentin. Vous préférez tout garder pour vous, d'où vos soucis avec l'URSSAF et le fait qu'on vous surnomme le pire d'entre nous. Ce qui s'est encore confirmé hier, quand vous avez rappelé 4 fois que Bernard, un gentil monsieur rencontré dans la rue, vacillait comme un vieux clochard bourré. Je le rappelle, alors que son témoignage était très intéressant.
Je n'ai jamais dit ça. Clochard bourré.
Vous avez utilisé le mot vacillé.
Ça balance. Mais j'invite les auditeurs à aller réécouter le Complètement la rue, qui est en podcast.
Ah, évidemment.
Il est en podcast.
C'est mieux qu'un podcast.
C'est une nouvelle appli.
Quentin, ce burn-out militant, est-ce que les gens en avaient entendu parler?
Je repose une tasse de café sur le comptoir d'un café parisien qui m'abrite du froid en ce début de mois de janvier compliqué. En sortant, je sors le micro France Inter de ma poche et ce monsieur m'interpelle.
Je me demandais s'il y avait encore des gens qui travaillaient pour France Inter.
Ah, c'était pour me piquer un peu, quoi.
Bien sûr. J'étais beaucoup Europe.
Europe 1?
J'écoutais beaucoup Europe 1, j'étais chauffeur routier et puis j'écoutais beaucoup ça.
Je lui explique notre émission, je fais lire aux gens dans la rue le thème du jour de Zoom Zoom Zen.
Le burn-out militant.
Vous n'êtes pas militant, vous?
Non, je serais plutôt militant socialiste.
Ça existe encore?
Je suis pas militant, je suis pas inscrit au parti, mais je veux dire, je vote socialiste depuis Mitterrand.
Est-ce qu'on peut parfois trouver du découragement dans le militantisme ?
Ah, bien sûr. J'étais délégué, moi, CGT, délégué du personnel. Ouais. Oui, il y a des moments, il faut avoir la foi, quoi. On se décourage par le manque de résultats, par les difficultés, par l'adversité, quoi.
Pour ce monsieur, c'est aussi une question d'époque, de génération.
J'ai des idées de gauche depuis tout jeune. Et si on lutte pas, la société, c'est triste. Les gens se détournent de la politique parce qu'il n'y a plus d'idéologie, je trouve. Je trouve que c'est ce qui manque par rapport aux années 60, 70.
Mais d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a moins de militants politiques en général. On les recrute parfois pour les campagnes.
Oui. Avant, c'était les gens étaient catégoriquement de gauche.
Ouais, c'est plus volatile comme militantisme.
Oui, les gens vont d'un parti à l'autre en l'impression que c'est des vases communicants. Demain, je vote à droite et puis demain, je peux aussi bien avoir des idées de gauche. Pour moi, si on est de gauche, on est de gauche depuis le début et puis on est tout le temps de gauche.
C'est vrai, et qu'il a été syndiqué, délégué du personnel, militant PS, et qu'aujourd'hui, ce n'est pas un profil qui est si fréquent que ça. J'arrête deux jeunes gens, Mathilde et Étienne, pleins d'envie et d'enthousiasme pour commencer l'année.
Bonjour.
Bonjour.
Le burn-out militant. Peut-être le fait de tellement vouloir s'engager dans son travail qu'on en fait un burn-out.
Ou alors tellement vouloir s'engager dans... en politique ou pour des causes qu'on en fait un burn-out ?
Oui, c'est ça. Je leur demande s'ils s'engagent eux-mêmes. Après tout, on est tous un peu militants.
Je crois qu'on se tient un peu éloigné de ça, justement. On soutient toutes ces causes, évidemment. Et moi, ça me fait toujours peur de beaucoup m'investir aussi parce que j'ai peur de me perdre dans du non-résultat ou trop d'énergie dépensée et oublier ma propre existence, des fois au profit de causes qui sont hyper essentielles, mais qu'on ne peut pas battre seul.
Vous n'avez pas essayé avec le féminisme, le climat, de vous engager, vous, personnellement ?
Moi, non, jamais.
Moi, c'est vrai que je suis pas très militant non plus.
Je leur demande si c'est un truc de leur génération. Est-ce qu'on s'engage moins en 2026 ? Est-ce qu'on donne moins de temps pour une cause ou pour les autres, tout simplement ?
Moi, je verrais pas ça comme ça. Je dirais pas qu'on donne moins de temps à l'autre. Je dirais peut-être qu'on donne plus de temps aux gens à qui on a envie d'en donner, nos proches ou les gens vraiment qui sont très proches de nous, mais peut-être moins aux gens qu'on connaît pas. Peut-être, hein, peut-être que c'est quelque chose de notre génération qui fait qu'on a plus envie de se recentrer sur... C'est triste, c'est pas du tout ce qu'on a envie d'entendre en début de 2026, quoi.
Est-ce qu'une décennie de bouquins et de podcasts sur le développement personnel aurait eu raison de l'engagement et du militantiste énergivore, celui qui fait qu'on s'oublie ? Je réfléchis à ça tout en traînant dans cette galerie commerçante où cet homme joue du piano, mis à disposition pour tout le monde, et c'est un air connu.
Florent Pagny.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Je m'appelle Nicolas.
Vous avez quel âge ?
J'ai 26 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ?
Je suis éducateur avec des enfants, je travaille avec des enfants.
Dernière réaction sur le...
Le burn-out militant, moi, ça me fait penser à certaines personnes qui essayent de défendre des causes un peu à corps perdu. J'ai beaucoup d'amis artistes qui défendent des causes comme les causes par rapport à la féminité, entre guillemets.
Le féminisme ?
Voilà, exactement, le féminisme. Et les causes écologiques, etc. Ces gens-là, ils défendent des causes qui sont belles, qui sont justes, mais ils se mettent à fond dedans et ils font un burn-out à cause de ça, quoi.
Et oui, le fait de se décourager, je pense aux aides humanitaires qui peuvent perdre l'envie en ce moment en voyant l'actualité internationale. On a beau jouer We Are The World.
Exactement, bah ouais, c'est une musique, bah du coup, ça fait lien avec ton sujet, parce que du coup, bah c'est une musique qui essaye de mettre tout le monde ensemble, quoi, donc c'est ouais. Une belle musique.
On chante We Are The World et en même temps...
Et au final, bah le monde, il se sépare quand même, et ouais, c'est pas beau, ouais, non mais c'est clair, je suis totalement d'accord.
De l'ancien délégué militant socialiste qui parle de la lutte à la prudence de ces jeunes, en passant par la lucidité de Nicolas, qui voit bien comment certains s'usent avant même d'avoir été entendus, le burn-out militant raconte peut-être ça, non pas la fin de l'engagement en soi, mais la transmission d'une fatigue, comme si la flamme avait perdu de son éclat en changeant d'époque.
Hélène Balazard, est-ce que le militantisme, il n'est pas un peu à contre-courant de notre époque ? C'est vrai que c'est la, comme disait la personne dans le micro-trottoir de Quentin, c'est vraiment la décennie du développement personnel, donc ça c'est encore un dérivé de l'individualisme. Est-ce que le militantisme est encore à la mode ?
Alors, si on regarde plus largement le bénévolat, c'est-à-dire l'engagement dans des causes qui vont du club de sport à effectivement des associations plus radicales, plus militantes au sens politique du terme, on a une assez grande stabilité quand même du nombre de bénévoles en France. Il y a eu, après le confinement, il y a eu un peu moins de bénévoles. On en compte à peu près 22 millions. C'est quand même énorme. Par contre, l'engagement a énormément changé. Et effectivement, là, ça illustre bien dans votre j'allais dire podcast, mais non, dans votre micro-trottoir.
Qu'on retrouve aussi au podcast. Hein.
Voilà. ça illustre bien ça. On a les deux visions avec l'ancien, qui parle vraiment d'engagement qui était plus de la fidélité à un parti, par exemple, à un engagement qui va être plus zapping un peu des jeunes. Mais les jeunes ne s'engagent pas moins. Les dernières études montrent.
Différemment.
Mais est-ce que, d'une certaine façon, les réseaux sociaux n'ont pas aussi tué un petit peu l'engagement? Enfin, j'ai l'impression que maintenant, il suffit de partager une story avec telle association pour dire « Ah, mais j'ai partagé ça, donc du coup, je suis engagée. »
Ouais, alors effectivement,
je caricature un peu.
Oui,
hein,
oui, c'est vrai que on peut s'engager que derrière son écran, quoi. Mais il y a quand même ce besoin de se retrouver en collectif qui fait du bien. Et par rapport à l'éco-anxiété, la fashion-anxiété, en fait, c'est montré. Hein, toutes les études scientifiques le montrent. Ce qui fait du bien par rapport à ça, c'est d'agir, c'est de s'engager. Et donc nous, ce qu'on dit quand même dans le livre, hein, c'est pas attention au burn-out militant, c'est engagez-vous, mais engagez-vous bien.
Ouais. France Inter.
S'engager jusqu'à s'oublier pourrait être l'épitaphe de Ghislain Fontana, notre réalisateur égéripier Birkenstock, qui a connu dernièrement un cas très rare de burn-out militant à la suite de cette très belle manifestation qu'il avait organisée intitulée « Sauver la planète grâce au tantrisme ». Un marathon du sexe qui devait, selon lui, infléchir la courbe des astres et apaiser les tensions internationales. Si les effets sur la géopolitique mondiale tardent encore à se faire sentir, cette orgie militante a laissé des traces au sein de la communauté, notamment à chaque passage aux toilettes sèches. Oui, mais c'est normal, oui. Mais c'est le revers de l'engagement militant. Courage, Ghislain. Ce quiz est dédié à tous ces héros de l'engagement. Jouons au Zoom Zoom Test. Et on commence dans le Manchester du début des années 2010. Cyril, non, ça ne veut pas changer les hommes, échanger les hommes avec des véraniums, ça n'a rien à voir.
J'aime bien Laurent Voulzy aussi.
Mais nous sommes à Manchester au début des années 2010, c'est dommage, j'avais Wonderwall à la flûte avec et je m'étais fait chier à le trouver. Cyril vous le dira mieux que moi, depuis que Margaret Thatcher n'est plus là, cette île de consanguins bouffeurs de jelly est vouée au déclin. Et l'un des signes les plus évidents de cette dégradation, notamment des services publics, est l'état déplorable des routes. À tel point qu'en Angleterre aujourd'hui, je vous le dis, la chaussée est dans un tel état que posséder un Range Rover n'est plus un luxe, mais une question de survie. Alors, selon vous, face à se laisser aller, que va faire le citoyen Stephen Wheeler en 2012 afin d'attirer l'attention des médias sur ce problème de route? Il va remplir de merde chaque trou dans la chaussée de sa commune.
Bah c'est long.
Il va refaire le marquage au sol lui-même, mais avec de la colle extra forte. Il va faire cultiver des mini-jardins dans les nids de poules.
B. J'ai envie de dire A, mais non.
Ghislain Fontana, qui a les doigts qui collent pour des raisons qu'on ne développera pas, vous a donné un indice malencontreusement. Non, c'est une bonne réponse de...
De Quentin,
c'était la réponse C, les mini-jardins. Le pouvoir des fleurs. Stephen Wheeler, un artiste qui, las de voir les routes anglaises à l'abandon, a décidé de créer des mini-jardins dans les nids de poules pour embellir l'espace urbain. Une initiative reprise dans le monde entier grâce au hashtag FlowerPotHalls, à ne pas confondre avec le hashtag FlowerPotGloryHall, qui là vous renvoie à des sites interdits aux mineurs où vous croiserez certainement Pierre Courade. Et pour la prochaine question, à la demande de Cyril, pour qui je cite les roast beef, ça va 5 minutes, let's go back to France. Nous sommes en 2024, la parenthèse enchantée des JO. Les rues résonnent des rires des gens, sans qu'on sache si c'est parce qu'ils sont heureux ou parce qu'ils viennent de voir la dernière vidéo où Quentin se prend la baguette dans le pif en essayant le kayak.
C'était quand même sur un site olympique.
Ça aussi, on le retrouve en podcast.
Oui.
Sur YouTube.
Oui.
Ne jouez pas sur les mots, Manon, attention. Vous vous en souvenez peut-être, durant cette période magique, il n'y avait plus de SDF dans Paris. Alors, était-ce parce que la pauvreté avait disparu ou parce qu'on les avait foutus dans des camions direction la Bretagne? Les activistes de l'assaut Utopia 65 penchent pour l'hypothèse des camions. Alors, qu'ont-ils fait? Ils ont hacké Google Maps en épinglant les lieux où les SDF avaient leurs habitudes avec une fiche pour chaque sans-abri. Ils ont piraté LinkedIn en remplaçant les fiches des membres du CIO par des profils des SDF. Ou ils ont créé un faux compte Insta Amazing Olympics en publiant des photos des sans-abri évacués en camionnette.
C'est... Je suis devant.
Vous êtes peut-être devant, mais comme c'est pas la bonne réponse.
C'est B.
C'est bien cette autorité.
C'est B.
Et c'est la réponse. Ah, Manon, arrêtez de crier C'est B. C'est une très bonne réponse, Manon.
Utopia 56,
non pas 65. Évidemment, Utopia 65, c'est une autre association un peu plus underground. 56 a effectivement hacké Google Maps, où des dizaines de nouveaux lieux sont apparus chez Dom, chez Jean-Pierre, chez Roberto, chez Moussa, représentant les personnes déplacées à l'endroit où elles avaient été déplacées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette idée de déplacer des SDF pour les cacher plus loin reste pour moi comme une tache sur ces JO de Paris, avec évidemment...
Image qui a beaucoup choqué,
les drag queens qui festoient.
Bien sûr Philippe, mais ça va sans dire. Pour la prochaine question, restons en France. Nous sommes en 2023 et trois membres du collectif Le Bruit qui court décident d'alerter l'opinion publique sur le délogement de dizaines de milliers de personnes en Ouganda à cause du projet d'oléoduc de Total Energy long de 1500 km. Selon vous, qu'ont-ils fait? Ils ont siphonné les cuves d'une station Total pour déverser l'essence sur Patrick Pouyanné, le PDG, alors qu'il se rendait à un cocktail à l'Elysée en costume Armani. Ils ont réuni plus de 1000 activistes à qui ils ont distribué 2000 bouteilles d'Evian, puis ils sont tous allés uriner contre la tour Total à la Défense. Ou ils ont envoyé des fausses lettres d'expropriation à des gens situés sur le tracé d'un faux oléoduc reliant Marseille à Rotterdam.
B.
Ils ont, pour vous, ils ont pissé contre la
tour.
Oui, on les a vus dans les médias.
C'est vrai que ça aurait été une image forte à la Défense.
Une belle flaque. C'est une bonne réponse de Quentin, lui. Une action efficace, puisqu'à l'époque
Manon... C'est une bonne idée, hein.
Ouais, c'est une bonne idée, ça avait été efficace. Puisqu'à l'époque, Manon, destinataire d'un de ses courriers, avait pensé 5 minutes à l'Ouganda. Pauvres Ougandais. Puis elle s'était replongée dans le manuel de son air fryer parce que life goes on, bitches.
Enfin... C'est bon, je l'utilise plus, je vais le mettre en vente. Voilà.
Ah ben, j'espère bien, il devrait déjà
peut-être
être vendu.
On peut en profiter pour demander si quelqu'un est intéressé.
Voilà.
Oui.
Combien
je mettrai sur mes stories.
Vous le rendez, votre
franchement, pas
plus cher que l'achète, comme d'hab.
40€, je pense.
Enfin, comment ne pas mentionner cette action militante qui m'avait beaucoup choqué à l'époque, mais qui, je dois l'admettre, ne manquait pas de panache. Nous sommes en Allemagne en 2022 et l'impensable va se produire puisque des activistes de Scientist Rebellion, militants pour la décarbonation du secteur automobile, vont oser profaner le sanctuaire des sanctuaires, le mausolée des mausolées, le musée Porsche de Wolfsburg, où sont exposées les plus belles Porsche de l'histoire, dont 9 ayant appartenu à Nagui. D'après vous, que vont faire ces uluberlus wokistes qui ne respectent rien, même pas le fameux 6 cylindres à plat de la 911? Ils vont fourrer des knacks dans les pots d'échappement des véhicules en exposition. Ils vont taguer Mein Eco-Kampf sur les capots, ou ils vont se coller le cul au sol de la concession.
C'est
allé très vite dans la bouche de Quentin, si j'ose dire. Réponse, c'est la réaction. La réaction en 2022 sera unanime.
Quelle indignité.
Heureusement, il y a une morale à l'histoire. Le patron du musée se foutant du message des activistes comme de sa première 911, il les a laissés mariner pendant presque 2 jours avant d'appeler les autorités. Et vous savez ce que ça fait quand on essaie de vous décoller du sol, quand vous avez les miches qui marinent dans la super glue depuis 48 heures?
Ça brûle!
Exactement, Manon, ça brûle.
Ça brûle!
Victoire de Quentin, lui. Une phrase que je prononce assez rarement.
Mais c'est gentil, merci de le souligner.
Oui,
en revanche, j'ai l'impression que ça me dit quelque chose, les questions qu'on a eues.
Peut-être que la dernière, vous l'aviez déjà eue.
C'est une redite.
Effectivement, on avait fait une émission sur le militantisme.
Voilà.
Peut-être,
je suis beau joueur. Je...
Ça brûle.
Calmez-vous, Manon.
Quand l'altruisme mène au burn-out. On continue d'en parler, de ce burn-out militant, avec la chercheuse en sciences politiques Hélène Balazar, qui signe un livre avec Simon Cotin-Marx qui s'intitule justement « Le burn-out militant ». Est-ce qu'il n'y a pas un effet de dégoût du militantisme ou de l'engagement même associatif quand on a la sensation de trop en faire sans avoir de reconnaissance en retour? Le problème de la reconnaissance, il doit être quand même hyper important pour les militants.
Oui, c'est très important, et d'ailleurs on y consacre une bonne partie, enfin un chapitre je crois, du livre, où on montre que plusieurs manières en fait de reconnaître l'engagement des bénévoles, de faire tourner les rôles, d'organiser des célébrations, d'avoir en fait des cérémonies, des célébrations, ça c'est hyper important, pas que pour la reconnaissance mais aussi pour redonner du sens, d'avoir ce côté festif. Et qu'est-ce que j'allais dire?
Moi, il y a une question que je voulais poser. Est-ce qu'il y a de la verticalité dans les assos? Parce que, est-ce que tout est en co-gestion ou est-ce qu'il faut une verticalité aussi? Est-ce que c'est pas ça parfois qui pose problème quand on va dans une asso pour faire quelque chose de collectif et on se retrouve finalement avec une hiérarchie comme dans sa boîte, quoi?
Il y a souvent pas mal de hiérarchie dans les grosses assos, en tout cas. Après, dans les petites assos, quand c'est pas pensé, on essaye de fonctionner de manière avec la sociocratie, de manière hyper horizontale, mais ça nécessite en fait pas mal de techniques, en fait. Ça se fait pas comme ça, et parce que ça peut vite tourner à la loi du plus fort et à la jungle, en fait. Et donc c'est pour ça que c'est important de se fixer des règles pour marcher de manière horizontale. Et dans les gros assos où c'est très vertical, c'est là que des fois il y a ce manque d'autonomie qui est un des 6 facteurs du burn-out, c'est le manque d'autonomie. Et c'est souvent souligné par des bénévoles qui vont être là juste pour faire la petite main et qui vont vraiment avoir un manque de reconnaissance. Donc c'est c'est pour ça que c'est important et qu'on insiste dessus. On donne plein de petits exemples pour pouvoir valoriser, reconnaître l'engagement de tous et toutes. Quoi.
Comme quoi, comme exemple ?
Alors, il y a des associations qui font des cérémonies, qui invitent. Alors déjà, rien que le fait d'inviter à des pots, d'inviter, enfin voilà, de faire des soirées où ils vont inviter même des chanteurs. Il va y avoir
Florent Pagny,
un spectacle,
par exemple
Florent Pagny, tout à fait. Ou des humoristes aussi, et qui vont citer les noms, remercier, ne serait-ce qu'à l'oral, ou remettre des prix. Ils vont leur offrir un repas. Voilà, déjà, ça c'est...
Je note tout ça, je vais appliquer tout ça dans Zoom à l'échelle de notre émission, à mon avis, ça fera des heureux.
Ce serait une première, mais très bien.
Et puis, et faire tourner les rôles aussi. Pas laisser les personnes dans une tâche un peu répétitive. Voilà. Parce qu'après, il y a le côté, on s'engage aussi des fois pour apprendre des choses, pour développer des nouvelles compétences, et reconnaître ça. Et donc, il y a des associations qui font tout un parcours, en fait, de l'engagement. Et on va commencer au début, et c'est quelqu'un qui va pas trop oser prendre la parole en public, mais s'il a envie de le faire, et ben on va l'accompagner pour pouvoir être celui qui prendra la parole en public, animer une réunion aussi. Et donc après, c'est des choses qu'on peut même valoriser. De plus en plus, les jeunes valorisent leur engagement dans des associations, dans leur CV.
C'est formateur.
C'est même à la fac, ça peut être reconnu par des crédits.
Carrément aujourd'hui. Hein. Ouais.
On parle de hiérarchie dans les structures d'associations. On peut aussi peut-être parler des égos. Parfois, il faut se méfier, peut-être qu'ils doivent prendre de la place. Quand on donne de soi, de l'engagement comme ça, parfois on doit peut-être se faire manger ou manger quelqu'un à cause d'un ego ou de son propre ego.
Ouais. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui revient souvent des conflits interpersonnels et le fait de ne pas avoir anticipé ces conflits. C'est souvent ça qui fait exploser des collectifs. Donc là, on s'est entretenu notamment avec une avocate en droit associatif qui donne plein de conseils. Et voilà, le droit associatif, ça reste quelque chose qui, quand ça va mal, on se réfère à ça, parce qu'il y a les tribunaux qui vont juger des affaires. Mais il n'y a aucune obligation. Pour déposer une association, il y a très peu de choses à faire, en fait. Donc, ce n'est pas comme le droit du travail à respecter obligatoirement. Mais elle donne plein de conseils, de choses à faire qui sont un peu pénibles au début. Enfin, pour l'avoir déjà fait en créant des assos, on y passe beaucoup de temps et on se dit « Ah, mais là, on n'est toujours pas là pour ce sur quoi on a envie d'agir ». Mais en fait, c'est hyper important pour la suite. Donc, c'est beaucoup investir du temps en amont pour après être tranquille sur la suite au cas où il y a quelqu'un qui a trop d'ego, qui va créer des problèmes, et pour pouvoir gérer cette situation conflictuelle, l'avoir anticipée, pour pouvoir le faire de manière juste.
Vous écoutez France Inter, il est 16h47. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une figure du militantisme écologique aujourd'hui, Greta Thunberg. À 15 ans, elle devient l'un des visages les plus connus de la lutte contre le réchauffement climatique. Une notoriété fulgurante qui lui met très vite une pression considérable. La militante suédoise a été à plusieurs reprises au bord de l'épuisement, au point de devoir s'accorder une trêve et de se retirer partiellement de la scène médiatique. Car ces deux dernières années, Greta Thunberg a fortement réduit ses apparitions publiques. Elle participe encore à des mobilisations, mais souvent, sans prendre la parole, elle privilégie des formats plus discrets et limite volontairement son exposition. Elle dit que c'est une manière de préserver sa santé mentale, on en parlait, et d'éviter de dépasser ses limites. Elle dit aussi que si notre espoir repose sur des jeunes au bord du burn-out qui s'occupent du climat après les cours, alors il n'y a plus beaucoup d'espoir. Greta Thunberg est aussi très critique à l'égard de la starification des combats écologistes. Malgré ses tentatives répétées pour, elle, passer le relais, l'attention médiatique est longtemps restée concentrée sur elle, y compris quand elle mettait en avant d'autres militants issus des pays les plus touchés par le dérèglement climatique. Et puis à tout cela, il faut rajouter le harcèlement dont elle est constamment victime. Dès qu'elle prend la parole, Greta Thunberg se prend des vagues de haine, souvent sexistes, parfois menaçantes. On ne critique pas seulement ses idées, on cherche à la rabaisser, à la ridiculiser, surtout à la faire taire. Rappelez-vous de cet épisode avec Andrew Tate, le masculiniste star à la fin 2022. Sur X, il tente de la provoquer en exhibant sa collection de voitures polluantes, et elle lui répond d'une phrase devenue virale: oui, éclaire-moi et envoie-moi un mail à smalldickenergy@getalife.com. Une histoire qui montre aussi comment Greta Thunberg a dû apprendre très très jeune, quand elle était encore mineure, à se défendre et à se protéger face à une violence devenue presque systématique. Aujourd'hui, Greta Thunberg dit vouloir ralentir, reprendre ses études, vivre plus normalement, tout en continuant évidemment à s'engager. Elle décline certaines invitations internationales et privilégie un militantisme plus collectif et moins centré sur sa personne.
Merci Manon, Hélène Balazar. Quand son, je pense aux parents qui nous écoutent, quand son enfant s'engage, commence à militer très tôt, 15 ans par exemple, parfois plus tôt encore, est-ce qu'il faut se réjouir ? J'imagine que la réaction c'est de se réjouir, mais est-ce qu'il faut être aussi inquiet quand on parle d'un mineur, parce que ça peut être effectivement très chronophage et ça peut déboucher sur ce dont on parle aujourd'hui, le burn-out militant, très jeune.
Je pense qu'il faut plutôt se réjouir, parce que avant tout, ça a plein d'effets positifs, le fait de s'engager. Alors, sans parler des effets que ça peut avoir sur la société.
Des effets pour soi, déjà.
Des effets pour soi, c'est démontré. Il y a quand même plus d'effets positifs à s'engager, notamment pour lutter, on en parlait, contre l'anxiété, mais aussi pour se faire des amis, pour donner du sens à sa vie. Donc non, il faut se réjouir. Et puis des Greta Thunberg, il n'y en a quand même pas tant que ça. Mais par contre, ça m'a fait penser que cette histoire m'a fait penser qu'en France, on parle du burn-out militant, surtout depuis 2019 et depuis notamment le collectif féministe contre le cyberharcèlement qui lance le hashtag Paye ton burn-out militant suite à la fermeture du Tumblr Paye ta schneck d'Anaïs Bourdet, qui déclare qu'elle est en burn-out militant à cause du cyberharcèlement dont elle est victime. Donc c'est vraiment lié à l'histoire un peu de cette notion en France, en tout cas. Ces histoires de cyberharcèlement, et il y a beaucoup de groupes qui s'organisent, notamment ce collectif que je citais, pour l'autodéfense en ligne contre le cyberharcèlement. Enfin, il y a voilà.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
C'est un nouvel élément, et pas des moindres, qui vient d'être ajouté à ce que la PJ appelle le dossier Courade. Selon une source proche du dossier, notre rédacteur en chef adjoint aurait occupé, dans sa jeunesse, un poste extrêmement prestigieux, puisqu'il aurait été le vice-président du club d'astronomie de Lourdes.
Ah, c'est vrai ?
Poste dont il aurait, hélas, été destitué dans des circonstances encore troubles, visiblement après l'envoi d'un mail un peu borderline à un stagiaire dont l'objet était, je cite, « Rejoins-nous, je te ferai découvrir la face cachée de la Lune.
»
Une Morandini, comme on dit dans le petit milieu du casting. Pierre, tout ça est loin maintenant, heureusement, et prescrit. Vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit sur le burn-out militant en une minute chrono.
C'est d'ailleurs depuis cette époque qu'on me surnomme le pic du midi de Bigorre.
Oh là là,
en tout cas, aujourd'hui, on a parlé d'autre chose, hein, du burn-out militant, ou comment on peut se cramer en s'engageant pour une cause. C'est d'ailleurs, pour ainsi dire, le titre du livre coécrit par notre invitée Hélène Balazar, chercheuse en sciences politiques. Pour elle, cet épuisement mental des militants vient d'abord de l'intensité de travail, hein, les raisons de s'indigner et donc de s'engager se multiplient. C'est fatigant de vouloir changer le monde. Autre facteur, la culpabilisation de ne pas atteindre des objectifs, hein, c'est le syndrome du chevalier blanc. Notre invité rappelle qu'aucun individu seul n'a pu gagner des combats. C'est notre système qui valorise l'individualisme, le culte de la performance, c'est la compétition qui gagne les associations, la surreprésentation de la figure du héros et de l'héroïne, la recherche du sacrifice sont aussi dommageables à la santé mentale des militants. Par ailleurs, l'impossible prise en charge du bien-être individuel au sein des associations pousse certains militants au burn-out. Ajoutez à cela l'inaction politique, voire les violences au cours de certaines actions et vous obtenez un cocktail explosif. Maintenant, comment éviter ce burn-out ? Eh bien, écoutez l'émission de demain, hein, vous en saurez plus ou presque sur la résilience militante. Je termine quand même sur le scoop de cette émission. Mathieu Noël est en fait le fils spirituel d'Henri Krezuki. Son militantisme discret à la CGT, qu'il nous a décrit en début d'émission, nous a tous mis les poils, je crois.
C'est vrai, bah, évidemment.
Ça. J'ai pleuré, moi.
Merci beaucoup, Pierre, cher pic du midi. Enfin, du Lisa Perriot étant encore convalescente, on reçoit à la place le docteur Marc. Docteur, France Inter vous envoie pour nous faire passer une visite médicale.
Oui, tout à fait, monsieur Mathieu. Avant de commencer, juste, j'adore votre émission, surtout celle du jeudi avec la petite gamine avec ses grandes dents, là, comment elle s'appelait, Apéro, elle est marrante. Elle a beaucoup de dents, par contre, je ne sais pas combien elle en a, celle-là. C'est pas un dentiste qu'il lui faut, c'est un carrossier. Enfin bref, je suis ravie d'être ici, surtout qu'on m'a toujours dit que j'avais une voix de radio. Pourtant, je ne suis pas radiologue. Blague de médecin, vous ne pouvez pas comprendre. Attendez, mon téléphone sonne. Oui ? Allô ? Docteur Marc, j'écoute. Ah non, désolé, je ne prends pas de nouveaux patients. Vous êtes un ancien patient ? Je ne prends pas d'ancien patient. Voilà. Bah, faut être patient. Voilà, que voulez-vous ? Voilà, je vous envoie mon RIB, hein ? Pour le règlement. Bah, vous inquiétez pas, ça sera rapide. Alors, on commence la visite, avec vous, monsieur oui. Mathieu, restez concentré, s'il vous plaît. Monsieur, bah, très, très grande oui. forme, je vois que tout va bien, c'est merveilleux pour vous. Alors, voilà.
Excuse-moi, j'ai quand même le pied cassé.
Eh bah, c'est super, que des bonnes nouvelles. Ensuite, monsieur Siri, là, bah, nous, on s'est vu hier, donc, bon, rassurez-vous, ça restera entre nous, hein. Le petit coup de mou, hein, secret professionnel. Surtout qu'avec les pilules que je vous ai prescrites, madame la carrière sera satisfaite. Ensuite, c'était qui ? Ma chère voisine. Ah oui, voilà. Le cher... Ah, c'est vous le bouquin sur le burn-out, c'est ça ? Ça se voit que vous n'êtes pas médecin ? parce que c'est bien écrit. Ah oui, bah pourtant c'était lisible, alors que les médecins. Enfin, j'adore l'humour. Et j'adore mettre à l'aise les gens. Hein. Vous savez, vous auriez moins. 10 ans de moins, je vous aurais sauté dessus maintenant. Bah, ça, c'est une blague de médecin divorcé, vous pouvez pas comprendre. Non, mais c'est bien ce que vous écrivez. C'est juste que bon, en fait, excusez-moi, on en fait pas un petit peu trop sur le burn-out, tout ça. Moi, j'en vois des gens passer, hein. J'en ai vu, vous savez, c'est juste pour se mettre en arrêt. D'ailleurs, Manon, je vous signerai pas votre document. La Mathieu Noël n'est pas le dictateur égotique dont vous parlez. Hein, puis si ça va pas, vous partez en vacances et puis c'est tout. Voilà, moi je reviens des Seychelles, j'ai une mine splendide. Alors je sais, ma voisine va me dire oui, bah moi mes militants écolos ils prennent pas l'avion. Bon, en attendant, ça les dérange pas qu'on abatte des arbres pour parler d'eux. Voilà, hein. Cherchez l'erreur, excusez-moi bien. Vous savez qu'avec un arbre, on fabrique 200 livres, voilà, non ? Donc heureusement que personne ne lit des livres sur les écolos, que tout le monde s'en tape, sinon imaginez le désastre. Ouais, attendez, excusez-moi. Oui, Dame Mireille, ça saigne. Ah oui, ça saigne beaucoup. Ouh là là. Prenez un Doliprane, Dame Mireille. Allez, hop. Alors, on en est où ? Qu'est-ce que je disais, Monsieur Noël ?
Je sais plus trop, j'avoue là.
Bah alors, on a des problèmes de mémoire, Monsieur Mathieu. Allez voir un docteur.
Vous n'êtes pas docteur ?
Bah si, j'ai des diplômes. Regardez. Toujours avec moi.
C'est votre brevet des collèges, ça ? Rien à voir.
Mention assez bien, excusez-moi bien. Et là, j'en ai un autre, j'en ai plein.
Un diplôme de plongée ?
Oui, niveau 2, je peux aller jusqu'à moins 20 mètres de profondeur. J'en perds mes mots tellement, vous savez. J'adore observer toutes les sirènes, hein. Coucou, voisine. J'espère qu'elle va pas nous faire un burn-out après un livre sur le burn-out, quand même. Hein. Blague de médecin, mais là, c'est accessible, vous pouvez rigoler. Ouh là là, 3 minutes que je suis avec vous, déjà, c'est un record pour une consultation. Je vous laisse, je dois aller rejoindre de toute urgence mes confrères pour les soutenir.
Pour la grève ?
Ah non, pour le golf. Un 18 trous sans moi, ils sont perdus les cocos. Hein. Pour le règlement, je m'adresse à qui ? Je préviens, je prends pas la carte bleue. Hein.
Ouais, ça ne m'étonne pas, on verra ça après. Merci Docteur Marc et surtout merci Lisa Perriot. On vous retrouve la semaine prochaine à ce micro et dans votre spectacle les mercredis à Paris à la Nouvelle Scène à partir du 4 février.
Bien sûr, quand
je merci, oui, quand vous serez remise. Merci Hélène Balazard, je rappelle votre livre Burnout militant, comment s'engager sans se cramer. Il y a des réponses dans ce livre coécrit avec Simon Cotin-Marx et qui est sorti chez Payot. Merci d'avoir été avec nous. Zoom, zoom, zen.